La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Eh bien, bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Je suis Patrick Saporito, donc de l'église protestante baptiste de Cahors. J'aimerais vous demander comment allez-vous ce matin ? Votre moral est-il indexé sur l'actualité dans le monde ? Si oui, eh bien le moral a des raisons d'être en bas. Nous voilà quelques semaines après Pâques. Notre texte de ce matin parle de deux personnes qui étaient tristes, sans espoir, mais qui sont passées d'une tristesse extrême à une joie extrême, indestructible. Il s'agit des disciples d'Emmaüs dans l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 13 à 35, que je lirai. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? Quoi ? Leur dit-il. Et ils lui répondirent : Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit : Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant : Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Jusqu'ici donc la lecture de la parole de Dieu. Vous connaissez certainement le Petit Prince écrit par Antoine de Saint-Exupéry qui a dit ceci : On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et je trouve que cette phrase résume bien notre texte de ce matin. Parce que, en effet, il ressort de ce texte qu'il faut croire pour comprendre et pour voir. Ce que je vous propose de voir en trois points. Premièrement, nous verrons que croire est plus important que connaître et voir. Deuxièmement, nous verrons quel est l'objet de la foi qui ouvre notre cœur. Et troisièmement, nous verrons que pour ouvrir nos yeux, il nous faut répondre à l'Écriture par la foi. Pour situer le contexte de ce texte, eh bien, nous sommes le jour de la résurrection de Jésus. Les femmes ont trouvé le tombeau vide, deux anges leur ont annoncé sa résurrection, ce qu'elles vont répéter aux disciples. L'apôtre Pierre a couru au tombeau tout stupéfait de le trouver vide. Deux disciples de Jésus qui ne faisaient pas partie des onze font route ensemble vers le village Emmaüs à 12 km de Jérusalem, soit 60 stades, nous dit Luc. On reconnaît bien là le style du médecin Luc qui a écrit cet évangile d'après son enquête minutieuse auprès des témoins oculaires, n'étant pas lui-même un témoin oculaire. Il s'attache aux détails descriptifs, comme pour nous dire comme à Théophile, le destinataire de cette lettre, c'est vrai, tu peux faire confiance à ce que tu lis et y baser ta vie. Ce sont des faits. Dieu a veillé sur sa parole. Tout en marchant, eh bien, Jésus se présente aux deux disciples. Et il va prendre l'initiative de s'inviter dans leur conversation, mais incognito dans un premier temps, sans se faire reconnaître de façon visible. Verset 16, « Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Fin de citation. Jésus leur demande, alors qu'il sait déjà tout parce qu'il est le Fils de Dieu, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» Verset 17. Il leur fait remarquer leur tristesse apparente et leur demande « Pourquoi cette tristesse ?» Une telle question ne peut qu'attirer l'attention de l'auditeur. Une des premières questions que l'on se pose quand on se salue est « Comment allez-vous ce matin ?» Et vous, chers auditeurs et auditrices, comment allez-vous avec l'actualité ? Ces menaces de Troisième Guerre mondiale qui effraient, et ce, après 2 années de pandémie. J'ai échangé dernièrement avec une élève de clarinette. Elle m'a partagé qu'elle était profondément inquiète de ce qui allait advenir de ses enfants en cas de guerre nucléaire. Du coup, eh bien, j'ai reporté l'heure de cours pour lui annoncer l'évangile. Nous sommes à l'ère d'Internet, dans une société de l'information. Et quelqu'un qui n'est pas au courant de ce qui se passe dans le monde passerait pour un irresponsable extraterrestre. Mais inversement, un non-croyant accro à son portable, à l'affût des dernières actualités, risque de tomber dans une angoisse grandissante, n'ayant plus envie de travailler ni d'avancer. Si vous vous fiez à vos émotions, attention, elles sont trompeuses, comme des montagnes russes, dépendant des circonstances. Si vous choisissez de vous y fier, c'est comme être leur esclave. Vous perdez votre joie au premier automobiliste qui vous fait une queue de poisson. Les disciples étaient tristes, et pourtant, ils auraient dû se réjouir. Pourquoi ? Eh bien, voyons mon premier point. Croire est plus important que connaître et voir. Les deux disciples d'Emmaüs étaient bien au courant de ce qui avait fait la une de Jérusalem les jours précédents, la crucifixion de Jésus, puisque, je cite, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé, verset 14. Ils revenaient de Jérusalem. Alors, en guise de réponse à la question de Jésus, Cléopas, l'un des deux, lui fait le reproche culpabilisant de ne pas savoir ce qui s'est passé dernièrement à Jérusalem. Verset 18, je cite, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ?» Fin de citation. Vous a-t-on déjà fait ce reproche, au travail ou ailleurs ? Comment ? Tu ne sais pas ça ? Tu n'es pas au courant ? Tu es bien le seul ? Et alors, vous vous êtes senti coupable de ne pas savoir, et voire même de ne pas tout savoir, de ne pas être à la hauteur en quelque sorte. Vous vous êtes senti diminué par rapport à votre interlocuteur qui vous impressionnait par son savoir. Mais, même si la connaissance en général est bonne, et même si c'est utile et nécessaire de rester informé, surtout à l'ère d'Internet, est-ce l'information, la connaissance qui sauvera le monde ? La connaissance ne sauve pas, et est incapable de changer le cœur de l'homme, pas plus que la technologie, ni la science, ni la médecine, aussi utile soit-elle. Connaître toujours plus ne fait qu'augmenter l'angoisse. La science a percé les secrets de l'atome, mais la peur d'une guerre nucléaire est bien là chez certains. Dans la Bible, on trouve en Ecclésiaste chapitre 1, verset 18, ce verset. « Car plus on a de sagesse, plus on a de sujets d'affliction. » En augmentant sa connaissance, on augmente ses tourments. » Fin de citation. Les deux disciples d'Emmaüs avaient connaissance des derniers événements et ils étaient tristes. Ils n'ont pas compris pourquoi les chefs religieux ont fait crucifier Jésus, lui qui a fait tant de miracles et qui n'a fait que du bien dans sa vie, qui a nourri des foules, qui a enseigné les foules. Ils sont tristes. Leur espérance terrestre est stoppée, puisqu'ils attendaient un messie politique pour Israël, alors que Jésus est bien plus que cela. Ils avaient même entendu parler de la résurrection par le récit des disciples femmes qui ont vu le tombeau vide, récit confirmé par d'autres disciples, mais ils étaient tristes. Alors pourquoi cette tristesse ? Pourtant, ils devaient bien connaître l'Écriture, car ils reconnaissaient Jésus comme un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu, d'après leur propre dire. Un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Même si vous êtes de ceux qui connaissaient bien votre Bible et la lisez régulièrement, ce que je vous souhaite, vous arrive-t-il de vous sentir triste ? Vous vous dites, un chrétien devrait toujours être joyeux. C'est vrai, mais dans la réalité, c'est autre chose. Vous n'avez pas le moral. Pourquoi ? Vous vous culpabilisez de ne pas connaître toute votre Bible ? Mais j'aimerais vous poser une question. Quel était votre niveau de connaissance biblique lorsque vous avez entendu l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour la première fois et que vous y avez cru avec la joie dans votre cœur? Jésus va faire prendre conscience aux deux disciples de leur problème. Quel est-il? Eh bien, leur problème n'est pas de tout savoir. Ça, c'est le reproche qu'ils font eux-mêmes à Jésus. Verset 18, je cite, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» Fin de citation. Voilà toute l'impression que leur fait la présence de Jésus ressuscité à leur côté. Quelle ironie! C'est eux qui ne savent pas. Qui ne savent pas qu'ils s'adressent à celui qui est au centre de leur discussion, alors qu'ils l'ont sous leurs yeux, eux qui l'ont pourtant connu. Non, Jésus leur dit que leur véritable problème n'est pas d'être au courant, mais d'être lent à croire. Car eux-mêmes se disent fort étonnés, verset 22, et disent au verset 24, « Lui, Jésus, ils ne l'ont point vu. » Voilà le problème à l'origine de leur tristesse. Jésus leur reproche leur manque d'intelligence parce que la vraie intelligence n'est pas de tout savoir, mais de croire ce que Dieu dit dans sa parole. En effet, il faut croire pour comprendre et non pas tout comprendre pour croire. Il faut croire pour comprendre que c'est Dieu qui a créé le monde à partir de rien. Je citerai l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Fin de citation. Aussi, il faut croire pour voir avec le cœur, et non pas voir avec les yeux pour croire. Voilà pourquoi les disciples n'ont pas reconnu Jésus. Voilà pourquoi Jésus ne se fait pas reconnaître immédiatement, alors qu'il aurait pu dire « Mais regardez, c'est moi, vous ne me reconnaissez pas ». Voilà pourquoi il les pousse à parler par ses questions, alors qu'il sait déjà tout étant Dieu, et surtout qu'il est le sujet central de leur discussion. Pourquoi cette stratégie de la part de Jésus? Eh bien parce qu'il veut non seulement qu'ils expriment leurs sentiments, mais aussi tester leur foi pour les amener à croire. Mais à croire en quoi? On entend souvent l'expression « l'important c'est d'y croire ». Oui, mais est-ce que ça suffit? Croire en qui? Croire en quoi? Certains croient à leur horoscope, écrit par de parfaits inconnus, ou encore vont voir des voyants pour connaître leur avenir, mais refusent de croire la Bible, parole de Dieu qui est la vérité. Le diable aussi voudrait qu'on ait la foi, mais en lui. Sauf que croire en lui, c'est croire à ses mensonges, car il est le père du mensonge, nous dit la Bible. Aussi, je peux croire dur comme fer que ma voiture peut rouler sans essence et me le répéter selon la méthode Coué. J'y crois, j'y crois, j'y crois. N'empêche que je risque d'attendre longtemps si je ne fais pas le plein, parce que l'objet de ma foi est insuffisant. Aussi, quand vous avez peur de quelque chose, c'est que vous y croyez. Dans le livre de Job, Job lui-même a dit, dans la Bible donc, Job chapitre 3 verset 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Fin de citation. L'objet de ces différentes fois peut être réel, comme le diable ou la bombe atomique, ou bien imaginaire dans notre tête. Donc, ce qui importe, c'est d'avoir notre foi placée au bon endroit, parce que l'objet de notre foi est plus important que notre foi elle-même. Ce que justement je vous propose de voir dans mon deuxième point, voyons quel est l'objet de la foi qui ouvre notre cœur. En quoi et en qui Jésus voulait-il que les deux disciples croient, et que nous aussi nous croyons? Plutôt que de se faire reconnaître immédiatement, avant de leur ouvrir les yeux, Jésus va leur ouvrir leur cœur. Comment? En leur ouvrant l'Écriture pour qu'ils croient. Verset 27, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Fin de citation. Vous imaginez une étude biblique sur toute la Bible, faite par son auteur qui en est le centre, Jésus-Christ. On a envie d'y être. Eh bien, c'est possible. Voyons comment. Il commence par leur dire qu'il fallait que le Christ soit rejeté par les chefs religieux, qu'il souffre, meurt et ressuscite avant d'entrer dans sa gloire, parce que les Écritures l'avaient annoncé. Ces choses, les deux disciples les savaient, parce qu'elles sont dans l'Ancien Testament, mais notre Seigneur Jésus les a blâmées pour leur lenteur à y croire. En fait, la croix de Christ était ce à quoi ils ne pouvaient pas s'associer. Ils ne comprenaient pas pourquoi ces souffrances, ils n'avaient pas compris qu'elles étaient pour eux comme elles sont pour nous aujourd'hui. Elles ont pour but de nous pardonner si nous croyons en lui, parce qu'il a porté la punition de nos péchés et des leurs sur la croix et qu'il est ressuscité. Les deux disciples avaient peine à croire que Jésus était ressuscité, jusqu'au moment précis où Jésus leur rappelle que l'Écriture l'avait annoncé et ça devrait suffire. Et effectivement, ça a suffi. À ce moment, ils n'avaient pas encore reconnu Jésus. Ils n'avaient vu en lui qu'un simple promeneur. Et pourtant, ils avaient trouvé que sa prédication était puissante. Pourquoi ? C'est d'entendre et de comprendre les Écritures qui les a convaincus. Jésus a réussi à allumer véritablement un feu dans leur cœur, selon leur propre dire au verset 32. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Fin de citation. Est-ce que ce même feu brûle dans vos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu, même si nous ne voyons pas encore de nos yeux Jésus qui en est le centre ? Sa résurrection prouve que l'Écriture dit vrai. Voilà pourquoi on peut la croire dans son intégralité. Est-ce que vous lisez la Bible ? Est-ce qu'elle est votre nourriture quotidienne ? Peut-être vous oubliez de la lire parfois, mais est-ce que vous oubliez de manger 3 fois par jour ? Peut-être vous ne lisez que le Nouveau Testament parce que vous trouvez l'Ancien Testament trop compliqué. Mais si vous cherchez Jésus dans l'Ancien Testament, vous serez mieux à même de le comprendre, parce que toute la Bible parle de lui. Et si vous ne comprenez pas ce que vous lisez, eh bien demandez à l'auteur. Il est ressuscité, il est vivant, avec nous pour nous l'expliquer, par son Saint-Esprit. En leur ouvrant les Écritures, Christ leur a ainsi ouvert les yeux de leur cœur, mais pas encore leurs yeux physiques. Pourquoi ? Eh bien, c'est là qu'intervient notre part. Parce que pour ouvrir nos yeux, il nous faut répondre à l'Écriture par la foi. Alors, mon troisième point, Jésus va continuer à les tester pour leur donner l'occasion de manifester leur foi. Il fait mine de s'en aller, comme il a feint l'ignorance pour les faire parler. Ils ne voulaient pas s'imposer. Eux ne savaient pas encore qui il était, mais ils ne vont pas laisser partir comme ça un homme qui explique si bien l'Écriture. Alors, en bons disciples, ils vont exercer l'hospitalité. Ils l'invitent à prendre leur repas chez eux. Quoi de mieux qu'un repas pour faire connaissance ? Et leur insistance à garder Jésus avec eux, leur hospitalité, va payer richement, puisque Jésus va se laisser inviter et reconnaître à leurs yeux pendant ce repas. Jésus a ouvert leur cœur en leur ouvrant l'Écriture. Ce n'est que lorsqu'ils ont répondu à l'Écriture en ouvrant leur maison et leur cœur à Jésus que Jésus leur a ouvert les yeux. Jésus a souvent été à table avec ses disciples à la maison et c'est là, au cours d'un repas, qu'il s'est fait reconnaître. Comment ? En rompant le pain. Jésus, par ce geste, n'est plus l'invité, mais devient l'hôte qui accueille et l'hôte devient son invité. Il y a inversion des rôles. Si vous ne l'avez pas encore fait, invitez Jésus dans votre vie, dans la repentance et dans la foi. Insistez, dites-lui « Reste Seigneur » et lui vous accueillera à son tour. Et parce que Christ nous a accueillis, l'Écriture nous invite aussi à accueillir l'autre, même s'il est différent. Ce peut être par une simple rencontre et aller jusqu'à exercer l'hospitalité. Aussi, ce texte nous encourage à rendre grâce à chaque repas, même lorsque vous recevez des invités non-croyants chez vous. Si vous leur expliquez juste avant le repas pourquoi vous rendez grâce, eh bien vous avez là une magnifique occasion de leur annoncer l'Évangile. Au moment même où les disciples reconnurent Jésus, il disparut aussitôt de devant leurs yeux. Mais pourquoi si vite ? Eh bien, même si Jésus est réellement ressuscité, croire en lui est plus important que de le voir. Est plus important que de tout savoir. Peu après, Jésus dira à son disciple Thomas dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Fin de citation. Faites-vous partie de ces heureux aujourd'hui. Peut-être que vous êtes chrétien, mais vous êtes quand même triste. Eh bien, si c'est le cas, Jésus vous demande, comme il a demandé aux disciples, « Pourquoi êtes-vous triste ? » Alors, dites tout à Jésus. Vous pouvez tout lui dire, il est vivant. Cherchez la consolation dans les Écritures qui parlent de lui et il vous donnera sa joie pour échapper à la morosité ambiante. Les disciples ne sont plus frustrés comme au début, ni tristes, même après que Jésus ait disparu de devant leurs yeux, au point que, verset 33, je cite, « Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. » Fin de citation. À peine rentrés chez eux après 12 kilomètres de voyage, alors que la nuit tombait, les voilà repartis en sens inverse vers Jérusalem pour dire aux autres disciples que Jésus est vivant. Que s'est-il passé? Eh bien, ils ont rencontré le Christ ressuscité. Et eux aussi sont ressuscités. Le mot « se lever » peut aussi se traduire par « être ressuscité ». Face à ce qu'ils ont vécu, les disciples ne pouvaient pas garder le silence. Il fallait le dire aux autres disciples. C'est important pour les chrétiens de partager nos expériences entre nous pour nous encourager. Nous ne nous privons pas du culte, des réunions de prière, des études bibliques. Quant aux non-chrétiens de votre entourage, famille ou collègues de travail qui sont tristes, sans espérance, sans Dieu, même si la nuit spirituelle tombe, le soir approche sur notre monde, est-ce que votre cœur brûle pour aller leur dire que Jésus est mort et ressuscité pour eux aussi? Comme Jésus posait-leur des questions comme il l'a fait et utilisait l'écriture qui parle de lui. Et d'après notre texte, Jésus ressuscité s'invite là où on parle de lui, pour nous ouvrir le cœur et l'intelligence. Jésus a dit lui-même dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 20, « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Fin de citation. La personne qui vous écoute accueille l'écriture et par là même accueille Jésus. Puis c'est Dieu qui l'accueille en retour pour la sauver. Il faut croire pour voir. Comment se manifestera votre foi cette semaine?
Jean, chapitre 20, verset 29.
Parce que tu m'as vu, tu as cru.